qu'une femme allaite, elle est critiquée, qu'elle n'allait pas, elle est critiquée aussi.
Le lait étant, comme tout le monde le sait, le premier aliment de l'homme et même l'aliment exclusif du nouveau-né pendant plusieurs mois, évidemment que ça a donné une place particulière au lait.
Déjà, dès le Moyen-Âge, le sein de la femme, c'est un objet érotique en soi. Et donc là, on a une dualité déjà, ce sein nourricier ou ce sein érotique.
Il y a une méfiance, justifiée ou pas, mais en tout cas, il y a une méfiance par rapport au lait qui se traduit par la consommation de ce qu'on appelle abusivement des laits végétaux.
Le lait n'est pas un aliment comme les autres parce que c'est un aliment d'origine animale. Donc là, on a quand même quelque chose de très fort d'un point de vue déjà du rapport de l'humain au non-humain, de l'humain à son environnement.
Je suis Émilie Lestari et vous écoutez Bouffon. Vous écoutez la saison 6 de Bouffon et cette année, on a décidé de sortir les grands plats et les rallonges de table. Changement de menu, au lieu de consacrer un épisode par thème, on va se donner les moyens d'entrer plus en profondeur dans chaque problématique abordée. Ça veut dire désormais que Bouffon fonctionnera en série. Chaque mois, le temps de plusieurs épisodes, nous explorons ensemble toutes les facettes d'un sujet. Et pour la première série de cette saison 6, on s'attaque à l'aliment par lequel tout a commencé, le lait. C'est parti. Chaque matin, l'un des premiers gestes de ma journée consiste à ouvrir mon frigo pour en sortir une brique de lait. Du lait d'avoine, précisément. J'en mets toujours un petit nuage dans ma tasse de café. Alors que le reste de la journée, je bois des espressos et des cafés allongés, au réveil, ça a toujours été comme ça. J'ai besoin de douceur et de rondeur dans ma boisson chaude. J'ai besoin d'un câlin lacté, d'une sensation enveloppante et rassurante. Est-ce l'onctuosité du lait qui me réconforte? Son gras qui me nourrit? Son blanc écru qui, en se répandant dans mon café, me donne l'impression d'adoucir l'amertume de la vie? Chose sûre, le lait n'est pas un aliment comme les autres. Depuis toujours, cette substance liquide accompagne l'humanité. Maternel, il est au commencement de la vie. Animal, il porte en lui l'essor du monde agricole, tout autant que les traces d'une industrie agroalimentaire puissante. Entre charges symboliques et controverses, ruralité et mondialisation, lien intime et considération sociétale, le lait est un produit singulier. Maternel, en poudre, animal ou végétal, quel est ce liquide qui nous accueille lorsqu'on vient au monde et nous suit ensuite tout au long de la vie? Symboliquement, le lait abreuve l'humanité. C'est le mythe de la voie lactée. En se jetant sur le sein de la déesse Héra, Hercule fait jaillir une giclée de lait qui fonce dans le ciel et forme alors notre galaxie. Selon Éric Birloez, ingénieur agronome de formation, aujourd'hui enseignant en sociologie des comportements alimentaires et en histoire de l'alimentation, si le lait a une place unique dans notre alimentation, c'est bien parce qu'à l'échelle de nos vies, c'est le premier aliment auquel notre organisme a été confronté.
Le lait étant, comme tout le monde le sait, le premier aliment de l'homme et même l'aliment exclusif du nouveau-né pendant plusieurs mois, évidemment que ça a donné une place particulière au lait, une importance toute particulière dans les premières sociétés qui ont pratiqué l'élevage. Donc une très grande importance symbolique, juste pour citer deux ou trois exemples rapides. Bon, on sait que les Égyptiens, par exemple, avaient une déesse vache. On sait également que chez les hindous, les adeptes de l'hindouisme, l'univers serait né, selon eux, d'un océan de lait. On va retrouver chez les éleveurs Peuls de la bande sahélienne l'idée que l'univers est né d'une goutte de lait. Donc tout ça nous montre, dans certaines populations, l'importance absolument énorme du lait que l'on va retrouver dans un certain nombre de mythes, etc.
Cette fascination pour le lait, on la retrouve également dans la voix de nombreuses mères qui n'en reviennent pas d'avoir le pouvoir d'alimenter leur bébé par elles-mêmes. En anthropologie de la santé, on dit que cet émerveillement face à cette capacité à produire du lait relève d'un rapport au corps lactant et d'une construction de l'identité maternelle. Mais choisir d'allaiter ou de ne pas le faire, parvenir à allaiter ou avoir des difficultés, allaiter puis finalement y renoncer, tout cela pose des questions sur la pression sociale qui pèse sur les mères et nous y reviendrons plus tard dans cette série. Sous la plume du docteur en sciences économiques Christophe Thérien, On lit également que dans l'Égypte ancienne, la déesse Isis nourrissait les hommes de la vallée du Nil de son lait généreux, tandis que Cléopâtre prenait des bains de lait d'ânesse. Le lait est aussi le symbole de la vie éternelle pour de nombreux peuples, comme les Celtes ou les Grecs. La légende veut qu'au Moyen-Âge, il fallait faire très attention de ne pas renverser de lait sous peine de malédiction pendant 7 jours. Au cours de l'histoire, le lait a même accompagné l'essor démographique de notre humanité. Estelle Hercher, directrice de recherche au CNRS, est anthropologue biologiste.
Ma spécialité, c'est l'alimentation des sociétés du passé à partir de l'analyse du contenu chimique des ossements.
Au sein du laboratoire méditerranéen de préhistoire Europe-Afrique, la chercheuse a étudié la consommation des produits laitiers des populations passées, notamment chez les nourrissons. Elle nous parle d'une transition démographique néolithique liée à l'allaitement.
Donc le néolithique, c'est cette période durant laquelle les sociétés vont se sédentariser. On va perdre cette particularité d'être chasseur-cueilleur, donc d'être un peu nomade, de se sédentariser sur une aire géographique, de commencer à développer ses pratiques d'élevage, ses pratiques agricoles.
C'est le moment où les mères se sont mises à préparer du gruau, un mélange de lait et de céréales qu'elles donnaient à manger aux bébés avec des cuillères en os, comme le rapporte la chercheuse Sofia Stefanovic. Cette nouvelle alimentation permet alors aux femmes de gagner en autonomie et d'arrêter l'allaitement plus tôt.
Et lors de la néolithisation, on appelle ce phénomène-là, on va arriver avec un allaitement qui est beaucoup plus court. Alors ces pratiques d'allaitement long, d'allaitement court, ont une incidence très importante sur la démographie des populations. Lorsque l'allaitement est long, on a un intervalle intergénésique, un intervalle entre les naissances qui est beaucoup plus espacé. Donc la femme aura moins d'enfants lorsque l'allaitement est long, alors à l'échelle d'une population, hein. Alors que lorsque l'allaitement est plus court, la fertilité de la femme est beaucoup plus importante et elle va avoir beaucoup plus d'enfants. Donc on voit que ces pratiques d'allaitement, elles sont à mettre en rapport avec la modification de la démographie au néolithique, où on parle d'explosion démographique des sociétés. Donc vous voyez que ces pratiques d'allaitement, il y a probablement des mosaïques de comportements, mais on peut voir aussi au cours du temps des grandes transitions qui sont importantes pour l'histoire de nos sociétés anciennes et de notre humanité.
En effet, la durée de l'allaitement influe sur la fertilité, un phénomène physiologique normal puisque l'allaitement long bloque l'ovulation. Ainsi, en cessant d'allaiter plus tôt grâce au gruau, les femmes du néolithique ont pu se mettre à avoir plus d'enfants. Ce changement d'alimentation pour bébé a très certainement entraîné une restructuration de la société. Une moindre dépendance vis-à-vis de l'allaitement signifiait que d'autres membres de la société pouvaient s'occuper des enfants, laissant ainsi aux femmes plus de temps pour avoir plus de bébés, précise sur ce point la chercheuse Sofia Stefanovic. Mais le lait n'est pas que maternel. Il y a aussi le lait animal que nous ne consommons pas depuis très longtemps à l'échelle de notre humanité. Éric Birlouez évoque à notre micro un long processus de familiarisation avec l'animal. Il parle de consentement physiologique de la vache.
Le fait de consommer du lait, alors là on parle bien sûr d'un lait autre que celui de la mère ou de la nourrice, donc un lait animal, c'est quelque chose finalement qui est très récent à l'échelle évidemment de l'histoire de l'humanité. Si on considère que les premiers humains, que les premiers représentants du genre Homo sont apparus sur la Terre il y a 2,4 millions d'années, peut-être 2,8 millions d'années, eh bien l'homme ne consomme du lait animal que depuis 10 à 11 000 ans maximum. Donc c'est très très récent, et même d'ailleurs si on considère uniquement notre espèce, Homo sapiens, qui est apparu il y a 300 000 ans, ben, vous voyez ce que ça fait, 10 000 ans de consommation du lait sur un total de 300 000 ans, c'est très peu. En fait, il a fallu attendre le moment où l'homme a décidé et a été en capacité d'élever des animaux, des mammifères, en tout cas certaines espèces de mammifères sauvages, de pouvoir les élever, de pouvoir les domestiquer, de manière à pouvoir traire les femelles. Parce que l'animal sauvage, l'auroch femelle par exemple, même si vous l'attrapez, eh bien la femelle ne vous donnera jamais son lait, elle va le retenir. Et donc, traire un animal sauvage, c'est pas possible. On ne peut le faire que par un long processus de familiarisation avec l'animal qui fait qu'à un moment, l'animal va accepter de donner son lait à l'éleveur, comme il le fait quand son petit vient stimuler sa mamelle.
Ce processus de domestication est né dans une région du monde dans laquelle les animaux ont très tôt eu une place importante puisque c'est là qu'on a pu y documenter les premières interactions du monde animal avec l'espèce humaine.
Et donc ce processus de domestication dont je parle, des animaux, il a commencé, enfin dans l'état des connaissances actuelles, au Proche-Orient, alors d'abord avec les chèvres, les brebis, et puis assez rapidement après, quelques siècles plus tard, avec les bovins, et puis ensuite d'autres animaux ont pu être élevés et donner leur lait. Mais le premier animal que l'homme a domestiqué, on le sait aujourd'hui, ça a été le loup qui a donné donc le chien, mais le loup n'a pas été domestiqué pour son lait.
À en voir ses usages multiples dans la crème, le beurre ou encore les fromages, le lait est aujourd'hui un produit phare de nos sociétés modernes, comme en attestent également les rayons toujours remplis de nos grandes et moyennes surfaces. Pourtant, l'humain adulte n'a pas toujours été capable de consommer du lait.
Le lait, dans la société moderne, en fait, sa consommation, elle s'est pas développée rapidement. Et là, il y a quelque chose qui est très intéressant, et c'est même un aspect, je dirais, paradoxal, carrément contre-intuitif, qui est que les premiers humains, les premiers éleveurs à avoir domestiqué des animaux laitiers, n'étaient pas en capacité, à l'âge adulte, de digérer le lait. Comme encore une bonne partie de l'humanité aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui, adultes, ne tolèrent pas le lait, ont des douleurs abdominales, des crampes, des diarrhées, des nausées, des ballonnements, etc., etc. Et à l'origine, on pense que les premiers éleveurs ne digéraient pas le lait. Alors on peut se demander, mais pourquoi ils ont domestiqué des animaux laitiers ? Eh bien, c'est qu'ils avaient vite compris que, par observation, bien sûr, de manière empirique, que le lait pouvait malgré tout être consommé s'il était transformé, c'est-à-dire si on le faisait fermenter, pour obtenir donc du lait fermenté, les yaourts d'aujourd'hui en font partie, de ces laits fermentés, ou s'il était transformé en caillé, donc qui est le premier stade de la fabrication du fromage. Alors ça, évidemment, c'est intéressant d'avoir cette possibilité-là, sauf que ça marche pas toujours, la fabrication de lait fermenté ou la fabrication de caillés et de fromage. Et donc, dans les populations d'éleveurs initiales, mais il y avait quelques individus qui étaient plus favorisés que d'autres. C'était ceux qui étaient en capacité de digérer le lait liquide à l'âge adulte, sans prendre peut-être le risque de voir que ce lait fermenté ou transformé en caillé, ben, ça n'allait pas forcément marcher à tous les coups. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que progressivement, une part de plus en plus importante de la population a été constituée de personnes, là je parle des peuples d'éleveurs, qui étaient en capacité de digérer le lait parce que les autres ont pu être simplement, par la sélection naturelle, de pas survivre ou ne pas vivre suffisamment longtemps pour avoir des descendants. Donc, vous voyez, il y a cet aspect qui est très intéressant, qui est de dire que, au départ, le lait, sous forme liquide, n'était pas digéré par les adultes, et puis progressivement, il est devenu.
En d'autres termes, si le lait est aujourd'hui à ce point entré dans nos habitudes de consommation, c'est grâce à une sélection naturelle. Dans son ensemble, notre société est le produit de personnes dont les ancêtres ont développé une mutation génétique qui leur a permis de boire du lait sans souci il y a 6600 ans, selon une étude de Nature sortie cet été. Mais que s'est-il passé entre cette période et aujourd'hui ? Quel chemin le lait a-t-il fait pour à ce point devenir un produit de consommation courante ?
Le grand boom de la consommation de lait, on peut le dater de la révolution industrielle du 19e siècle, où on va mettre au point des procédés de stérilisation, de pasteurisation du lait, c'est-à-dire le traitement par la chaleur du lait, qui permet de le conserver, qui permet de le transporter sur de longues distances, et évidemment, ça va favoriser la consommation du lait. Et puis, plus récemment, à partir du XXe siècle, on va avoir évidemment d'autres techniques de réfrigération, d'amélioration des transports, etc., qui vont favoriser cette consommation, et puis les actions de santé publique. On se souvient peut-être en France du verre de lait de Pierre Mendès France, qui l'institue en 1954 pour nourrir en tout cas les petits Français, et puis aussi lutter d'ailleurs contre l'alcoolisme, et les campagnes de marketing qui font qu'aujourd'hui le lait est consommé, alors pas régulièrement par tous les Français, et ça c'est un dernier aspect que je pourrais souligner, qui est les disparités de consommation. On sait qu'il y a des populations qui consomment très peu de lait, c'est le cas notamment dans une grande partie de l'Afrique, plutôt l'Afrique centrale, c'est le cas en Asie du Sud-Est, en Asie de l'Est, et en revanche, des pays comme les pays scandinaves, par exemple, sont de gros consommateurs de lait. Donc, il y a des différences culturelles et qui sont liées aussi au fait que dans les pays du Nord, on est depuis plus longtemps éleveur et qu'il y a eu donc cette évolution dont je parlais tout à l'heure.
Ces différences culturelles sont intéressantes parce qu'elles nous permettent, en miroir, de comprendre les spécificités de la France en matière de consommation de lait.
Alors déjà, bon, la France est un grand pays producteur de lait, puisque c'est le deuxième producteur de lait en Europe derrière l'Allemagne. Mais en fait, nous, les Français, nous ne consommons pas beaucoup, mais vraiment pas beaucoup de lait sous forme liquide, ce qu'on appelle le lait de consommation. On consomme des produits laitiers à base de lait, on consomme des yaourts et d'autres laits fermentés, on consomme des desserts lactés, on consomme beaucoup de fromage, beaucoup de beurre, beaucoup de crème. Et là, on est vraiment, pour les fromages, le beurre, la crème, parmi les tout premiers pays au monde. Mais la consommation de lait liquide ne représente que 3% du lait qui est produit en France. Donc, c'est très, très peu. Donc, c'est le lait que l'on boit quand on en boit au petit déjeuner, au goûter principalement, et c'est principalement les enfants, ça peut être aussi un peu les adultes bien évidemment, et puis le lait qu'on va utiliser comme ingrédient pour les pâtisseries, pour la cuisine.
Mais d'ailleurs, quel est ce chemin fait par le lait entre le pis de la vache et la brique vendue au supermarché ?
Évidemment, il est d'abord produit à la ferme, mais j'insiste pour rappeler peut-être pour beaucoup de nos auditeurs une évidence, mais je sais que tout le monde n'en a pas conscience, qui est que tout simplement, pour que la vache ait du lait et donne du lait à l'éleveur, eh bien, il faut tout simplement qu'elle ait un veau. Donc, on peut vraiment faire démarrer le voyage du lait au moment où la vache va mettre bas ou la brebis ou la chèvre ou évidemment d'autres animaux. Et c'est 2 fois par jour, l'éleveur va traire ses vaches, 365 jours sur 365, il est à la traite. Alors la vache, elle ne donne pas du lait pendant 12 mois, mais pendant 10 mois, c'est la période dite de lactation, puisque pendant 2 mois, qui sont les 2 mois précédant la mise bas, la vache est tarie, elle ne donne pas de lait vers la fin de sa période de gestation. Donc le lait va être trait, il va être stocké à la ferme dans ce qu'on appelle un tank à lait, donc une grande cuve réfrigérée à 4 degrés en attendant le passage du camion de la laiterie qui passe tous les 2 jours. Donc entre-temps, il faut le stocker. Et puis ensuite, donc le camion citerne isotherme arrive à la ferme et collecte le lait et l'envoie dans l'usine de transformation qui n'est jamais très éloignée. Donc le lait arrive à l'usine. Il fait l'objet d'analyses, on analyse la qualité du lait. D'ailleurs, l'éleveur va être pour partie rémunéré à la qualité de son lait, au taux de matière grasse. Enfin, il y a différents critères qui rentrent en ligne de compte. Et puis, on analyse évidemment le caractère sain du lait. Ensuite, il y a une étape de pasteurisation, c'est-à-dire qu'on va chauffer le lait à 72 degrés pendant 15 secondes, pour être précis. Ça, c'est pour tuer tous les micro-organismes pathogènes donc qui peuvent se trouver dans le lait. Ensuite, on va écrémer le lait et, ce qui peut surprendre, mais ensuite, on va remélanger le lait écrémé et la crème qu'on a obtenue par l'écrémage. Et cela, on le fait évidemment pour avoir des laits standardisés et surtout pour avoir les différents types de lait que l'on connaît. On a du lait entier, on a du lait demi-écrémé, ça c'est l'essentiel de la consommation des Français, et puis on a aussi un petit peu de lait écrémé. Et après cette étape de, où on a remélangé la crème en certaines proportions, en quantité appropriée avec le lait écrémé, donc pour aboutir au type de lait qu'on souhaite, eh bien on va stériliser le lait. Quand on fait du lait UHT, qui est là encore 97% de la consommation du lait liquide, c'est du lait UHT, ultra haute température. Et pour cela, on va porter le lait à très haute température, 140 degrés, pendant 2 secondes. Et puis ensuite, on va emballer le lait dans les fameuses briques. Et ce lait UHT, ben, il a un avantage, c'est qu'on peut le conserver pendant des mois, au minimum 3 mois, alors que le lait pasteurisé, qui lui a été beaucoup moins chauffé, mais qui a gardé, qui est plus vivant, il a gardé des micro-organismes bénéfiques. Lui, s'il n'est pas débouché, on peut le garder 7 jours, mais pas vraiment au-delà. Quand ce lait sort de l'usine, est acheminé jusqu'à la grande surface, jusqu'au détaillant, et c'est comme ça que s'achève le voyage du lait.
Suivre le chemin du lait, c'est donc parler de biologie, d'analyse sanitaire, de technique, d'industrie agroalimentaire, mais aussi d'économie, comme nous l'avons fait dans notre épisode 137, un crossover avec Splash, dans lequel, avec Emmanuel Martin, on s'est demandé pourquoi on consomme autant de lait en France. Parler de lait, c'est aussi parler de l'alimentation infantile et de son évolution au cours de l'histoire. Du pis de la chèvre à l'ancêtre du biberon, les manières d'alimenter les bébés racontent également l'évolution des techniques.
Alors, il y a des écrits qui montrent que très tôt, on pouvait mettre aussi l'enfant au pis, principalement de la chèvre. Donc là, on n'avait pas besoin de contenant. Mais dès les populations romaines, on a des témoignages avec dans les sépultures d'enfants, associés ou pas, hein, ce qu'on appelle des petits guttis, donc c'est des petits biberons, donc c'est des petits récipients céramiques avec un petit bec et dont on pense qu'on y mettait un lait animal. Donc vous voyez qu'en fait, répondre à ces questions, c'est aussi bien s'interroger aux techniques qui évoluent, aux équipements que les hommes pouvaient produire, et puis aussi à nos connaissances sur l'allaitement et sur les bienfaits d'un substitut par rapport à la santé des enfants. Donc, ces substituts, c'est aussi lié à l'histoire des biberons. Donc, les guttis, c'était en fait les premiers biberons qu'on connaît à l'époque romaine. Mais après, le biberon va évoluer, enfin, les contenants, au début, on n'appelle pas ça des biberons, mais va évoluer jusqu'au biberon qu'on connaît actuellement.
En ce sens, le lait a toujours connoté la vie et la fécondité. Mais sa symbolique a, elle aussi, connu quelques évolutions au cours de l'histoire.
La question de la symbolique du lait, en fait, elle nous montre qu'il y a des évolutions dans le temps. Le lait étant l'aliment exclusif du nouveau-né, très tôt, il a été synonyme de vie, de fécondité. C'était aussi autrefois un symbole d'abondance et de richesse, qui est évidemment beaucoup moins le cas aujourd'hui dans nos sociétés modernes, en tout cas dans nos pays riches. Il reste des choses de cette symbolique du lait, par exemple la couleur blanche du lait qui, un certain nombre de personnes restent synonymes de pureté, et puis il y a aussi l'image de fraîcheur, etc. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que malgré tout, même dans des périodes anciennes, le lait n'a pas eu que des aspects positifs. C'est-à-dire que le lait était à la fois très valorisé, mais faisait déjà l'objet à certaines époques de méfiance. Et aujourd'hui d'ailleurs, hein, il y a une méfiance, justifiée ou pas, mais en tout cas il y a une méfiance par rapport au lait qui se traduit par la consommation de ce qu'on appelle abusivement des laits végétaux ou des breuvages comme les laits entre guillemets toujours de soja, d'amande, etc. parce qu'il y a cette méfiance vis-à-vis du lait.
Tantôt apprécié pour ses vertus, tantôt impossible à digérer, tantôt associé à la petite enfance, tantôt boisson des barbares, le lait regorge de facettes multiples. Et si nous venons de voir que cet or blanc a nourri le monde, dans le prochain épisode de cette série sur le lait, nous nous pencherons plus en détail sur le lait qui nourrit les enfants, à travers la question de l'allaitement ou du non-allaitement, de ce choix sous influence, des mythes qui lui sont associés et de la pression sociale, nous verrons que le lait est au centre des questionnements de la parentalité. Bouffon est un podcast de nouvelles écoutes que j'anime avec l'aide en coulisses de Cassandra de Carvalho et de Mathilde Jonin. Montage et mixage par Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Mailleux, directrice des productions Marion Gourdon.